Chapitre 31. L'horrible frousse de cette minute, pareille à la vague glauque qui balaye en un instant l'informe amas de détritus, engloutit les velléités de révolte et les intentions fragmentaires qui auraient pu s'agglomérer. Pâle de tragique émoi et silencieux, les jeunes garçons retournèrent au verger, laissant Donna seule pour aviser aux difficultés de la situation. En général, son sens pratique le servait bien et son cœur se mit de la partie cette fois. Pour cet enfant désespéré, il n'y avait qu'une issue, le départ immédiat. Donna, le soutenant comme il pouvait, l'avait emmené dans la chambre de son père et, chemin faisant, il lui était venu un étrange sentiment de reconnaissance pour ce petit refuge où il était sûr de trouver un accueil. Même un accueil attendri, car Donna remarquait bien que, moins le pauvre Jules Brunel bougeait de son coin, plus il était ravi d'y voir paraître son fils. Et c'était même touchant, les égards du pauvre diable pour le jeune homme qui étudiait, la table nettoyée, la meilleure chaise placée devant. Nemo se laissa faire, se laissa ajuster comme une chiffe contre un dossier, et resta les yeux fixes, muets. « Donne-lui quelque chose à boire, » fit Donna, regardant autour de lui. « Tu n'as rien ?»« J'ai ma tisane pectorale, fameuse, toute chaude dans le poêle, » dit Jules, qui ne pouvait s'empêcher de revêtir les moindres choses d'un aspect important. « Voudrais-tu lui en préparer une tasse, et moi, je vais vite écrire deux ou trois mots ?»« Parfaitement, parfaitement, » fit le père, content de jouer un rôle, si petit fut-il. Il sucra la tisane, il ingurgita à Nemo que cette boisson presque brûlante révolta dans son intérieur et qui eut une réaction proportionnée. Tandis que ces choses accessoires se passaient, Donna écrivait à Jacques, lui esquissait l'histoire du pauvre garçon, lui demandait de l'accueillir, de le mener lui-même à la buissonne et de faire tout le possible pour que Tante Inès l'admît dans son grand cœur maternel. Ensuite, il prit dans sa bourse, pas trop garnie, l'argent du voyage, 2 heures de chemin de fer, et il inscrivit sur un bout de papier les noms des stations, l'adresse de Jacques Mestral. Il se tourna vers Nemo, affectueusement, mais avec une rigidité dans la voix, comme un grand frère qui veut donner l'exemple. « Comment te sens-tu? Peux-tu te tenir debout? Écoute, il est inutile de songer à rester ici 1 heure de plus. » Je descendrai à la gare avec toi, nous avons encore 45 minutes avant le départ du train. Fais ce que je te dis, c'est le mieux, j'ai réfléchi pour toi. Ici, il y aurait encore des scènes. Je t'envoie à un de mes amis, il est bon, tu verras. Fais attention à parler bien distinctement, il a l'oreille un peu dure. Il te conduira tout de suite chez des parents à lui qui ont une ferme. Là, si on te garde, tu seras bien traité et tu apprendras à traire. Mon pauvre Nemo, courage, tu as encore du bonheur devant toi. Oui, murmura Nemo, oui, parce que je vous ai trouvé. Si je ne vous avais pas... Eh bien, précisément, tu m'as. Ça peut suffire pour le moment. Et tu feras bien de suivre les conseils de mon fils, dit Jules avec solennité. Moi-même, si je les avais suivis plus souvent, je m'en serais bien trouvé. À présent, fit Donna, je vais demander tes habits du dimanche à la lingère. On ne vous les donnera pas, s'écria Nemo. Si on vous les donne, alors, ma foi, je commence à croire à ma chance. Au bout de 5 minutes, Donna rentrait, portant sur son bras 2 ou 3 vêtements, au bout de ses doigts une paire de souliers. Et le garçon accomplit en un tour de main son changement de costume, tandis que Jules s'affairait à mettre en un paquet décent les pauvres nippes qu'il fallait tout de même emporter. « J'ai peur, » dit Nemo quand tout fut prêt, « j'ai peur que ça vous fasse du tort, mon affaire. Si ça devait vous faire du tort, je resterai. » « Bien parlé, » fit Jules au milieu d'un accès de toux. « Ça ne me fera pas plus de tort que je ne m'en suis déjà fait, » répondit Donna, haussant les épaules. Et puis, vois-tu, je ne suis plus ici pour bien longtemps. Voilà Loulou qui décrochera son brevet une fois ou l'autre. « Comme ça, je vous reverrai ?» demanda Nemo. Un tremblement passa dans sa voix, et ce fut tout l'attendrissement et toute la reconnaissance qu'il laissa deviner, dans cette occurrence, où Donna risquait pour lui la précaire sécurité de sa position. Quand le jeune homme remonta de la gare, son père lui dit « Si je t'avais eu pour ami dans mon jeune temps, ma vie aurait mieux tourné. » Son fils se mit à rire. « Oui, tu peux rire, mais je me comprends, » persista Jules. « Tu te figures bien que, dans ce coin, avec rien à faire qu'à tousser et à souffler comme occupation, j'ai du temps pour réfléchir. Je n'ai jamais été plus bête qu'un autre. J'ai une mémoire épatante et tout me revient. Je me revois bel ouvrier et noceur parce que c'était le genre. J'aurais pu me marier avec 12 jolies filles si c'est permis de se marier avec 12. J'étais fringant. Que diantre si j'aurais cru que je finirais au crochet de mon garçon. Enfin bref, je rumine, je remarche. C'est rudement amer à remâcher. » Pour la première fois, Donna entendait son père évoquer le passé autrement que par vantardise ou dans une banalité. Serait-il possible, se demanda-t-il avec stupéfaction, que mon père ait une vie intérieure? Cela l'effraya même, comme le présage d'un plus grand changement. L'explication avec M. Picret manqua de charme totalement. Au fond, le directeur était fort aise d'une péripétie qui vidait la maison d'un sujet difficile, un des meneurs. Mais il lui parut hygiénique pour Donna de lui en rabattre un bout, comme il le dit à sa fille. Renversé dans son fauteuil de velours rouge, ses cigares à portée de sa main sur le guéridon, la tête, en apparence, couronnée et crêtée d'un panache d'herbe rouge qui s'élançait derrière lui d'un vase invisible, M. Picret fut impressionnant. Il avait exigé que Clarisse fût présente parce que c'était elle qui avait délivré les fameux habits du dimanche. « Vous avez l'un et l'autre, » prononça le directeur en soufflant de la fumée entre les phrases, « vous avez l'un et l'autre assumé une responsabilité anormale. Vous avez favorisé l'évasion d'un élève. Alors, si ce fait devait se renouveler, vous voyez d'ici ?»« Évidemment !» fit Clarisse de son drôle de ton précis. « À l'égard du comité, vous me mettez dans une position... »« Anormale !» fit Donna. Le directeur le regarda soupçonneux. « Non, je ne dirai pas anormale, mais délicate, très très délicate. Je gazerai, rassurez-vous, monsieur Brunel, je gazerai. L'élève a été transféré, d'urgence, dans un autre milieu. » « Il contaminait le nôtre, » suggéra Clarisse. « Oui, ça n'irait pas mal. Toutefois, monsieur Brunel, je tiens à vous dire que votre esprit ne me semble pas être tout à fait celui de notre institut. »« Même pas du tout, » souligna Clarisse. « Pas tout à fait. Et si, peut-être, d'ici à quelques mois, d'ici au printemps prochain, quand Loulou aura son diplôme, » ajouta encore Clarisse, « veux-tu me laisser parler? Si quelque autre perspective s'ouvrait devant vous, jeune homme, alors n'hésitez pas une minute, portez vos pas vers des horizons plus vastes, plus conformes. »« Me permets-tu, papa, de m'en aller à reculons ?» demanda Clarisse avec la petite ombre de rire qui adoucissait la fermeté de ses lèvres. Ils quittèrent ensemble l'auguste présence et, dans le corridor, Donna ne put s'empêcher de demander à l'énigmatique fille « Mademoiselle, êtes-vous pour ou contre le système ?» Elle s'arrêta un instant, le regarda en face, une réponse parut trembler sur sa bouche. Mais elle dit seulement « Comment va votre père ce matin? Ma mère à moi est bien souffrante aujourd'hui, je me hâte de la rejoindre. » « Elle a ses soucis, » pensa Donna, « mais c'est égal, si elle a une belle nature, comme je me prends à le croire de temps à autre, comment reste-t-elle dans cette baraque? Complice de tout dans la baraque. Elle pourrait gagner sa vie n'importe où. » Il y a des gens qui croient davantage aux conséquences de la destinée et d'autres à ses châtiments. Donna, qui certes n'attendait aucune récompense, s'imagina en recevoir une lorsque le courrier du même soir lui apporta une lettre d'Esther. Esther, sa reine, sa délicieuse Esther, dont la bouche charmante et les yeux changeants se peignirent dans son esprit en leurs couleurs exquises dès qu'il vit la signature au bas de la page. Esther, qui ne lui avait jamais écrit une seule ligne, et lui avait envoyé seulement de pâles amitiés. « Chère Donna, écrivait-elle, on pourrait croire que nous ne sommes plus amis. Nous ne savons presque rien de toi et papa s'en plaint. Comme tu sais, j'ai une classe en ville, mais je ne la garderai peut-être pas longtemps. La vie est une chose si pleine d'imprévus. Voilà une banalité que je t'offre. Tu pourras la mettre dans une composition. Es-tu devenu un grand Donna très raisonnable ? Si c'est le cas, viens donc nous voir une fois cet été. » Donna, toute la nuit, ne fit autre chose que triturer et passer à l'alambic chaque syllabe de cette lettre, et il réussit à extraire de leur mystérieuse essence une goutte d'espoir.